Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'intimité domestique des dictateurs. Bonjour Christian Roudot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous chez 7 milliards. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous avez publié au printemps dernier « À la table des tyrans » chez Flammarion. Celle d'Hitler, de Staline, de Mao, de Ceausescu, de Bokassa, de Saddam Hussein. Vous allez nous raconter comment la table, les repas, le contenu des assiettes, jusqu'au tube digestif parfois, révèlent une part de la folie du pouvoir. Et pour le lecteur, ça conduit aussi, je dois dire, à une certaine nausée. Observer les tyrans à hauteur de table révèle le grotesque et l'absurdité de leur régime, écrivez-vous, ce qui ne dispense pas l'histoire de se reproduire, malheureusement, y compris sur ce sujet de la table. Bref, c'est pas une émission pour nous mettre en appétit, je crois que vous l'avez compris, les voisins et les voisines. Mais vous avez d'ailleurs déjà écrit sur les liens entre la politique, les chefs d'État des démocraties et les plaisirs de bouche, avec souvent les paradoxes aussi de l'affichage et la réalité prosaïque de ce qui se mange. Notre correspondante au Brésil, Sara Cozzolino, reviendra sur les frasques alimentaires du président démocratiquement élu mais menacé de destitution, Jair Bolsonaro. Et puis en fin d'émission, un peu de poésie ingénue pour nous faire digérer ce sujet. Ce sera « Le monde à hauteur d'enfant », une nouvelle chronique de Charlie Dupiot. Chaque mois, des enfants de 8 à 13 ans racontent leur vision du monde à partir de leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, eh bien, ils habitent Conakry et ils parlent de l'amour. Et ça sera très rafraîchissant.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Christian Roudot, vous avez déjà consacré 2 livres, 2 documentaires aux tables du pouvoir. Pourquoi vous avez eu envie de pousser la porte des cuisines les plus obscures, les plus nauséabondes, celles des dictateurs ?
Écoutez, c'est vrai, je me suis intéressé tout d'abord au président de la République française, du général de Gaulle à François Hollande, quand je me suis occupé de ces présidents, Emmanuel Macron n'était pas encore élu, et je me suis aperçu que c'était vraiment une grille de lecture passionnante. Vous connaissez la fameuse formule « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ».
De Brillat-Savarin.
Voilà, de Brillat-Savarin. Et je me suis dit, vraiment, ça doit valoir le coup d'aller pousser la porte de salle à manger des pires dictateurs du XXe siècle. Et c'est là d'où m'est venue l'idée donc, de voir d'Adolf Hitler à Saddam Hussein ce qu'il mangeait et surtout dans quel contexte, comment il le mangeait.
Qu'est-ce qu'une assiette prosaïque, finalement, peut révéler de l'inconcevable et d'un régime totalitaire.
Exactement, on a un petit peu tout ce qui se retrouve. L'assiette est un parfait reflet du pouvoir dictatorial. On y trouve la mégalomanie, rien n'est trop beau, rien n'est trop bon dans l'assiette et pour en mettre plein la vue aux dignitaires étrangers qui seraient invités dans un régime dictatorial. Il y a aussi la paranoïa, la peur d'être empoisonné, ça c'est constant chez les dictateurs et pas seulement que chez les dictateurs. Et puis il y a aussi une forme de, d'indulgence narcissique. On a là des personnes qui n'ont aucun problème, aucun souci, aucun remords à envoyer à la mort et souvent par la mort de faim, c'est le cas sous Mao, c'est le cas sous Staline, pendant que eux-mêmes ça va très bien pour eux, mangent à leur faim et souvent des plats délicieux et délicats.
Et puis l'assiette, c'est toujours relié à la mère quand même. C'est la première nourriture quand on vient au monde. Qu'est-ce que ces dictateurs ont éprouvé, ont vécu dans leur enfance par rapport à la nourriture pour que ça puisse conditionner aussi éventuellement la suite ?
Vous avez tout à fait raison. Et pour moi, ce travail, c'est un travail qui m'a pris quand même plusieurs années d'aller chercher ces petites notes de bas de page, ces documents. Il y a des témoins aussi directs qui m'en ont parlé. Mais pour moi, ça a été l'élément déterminant, c'est voir à quel point la cuisine de leur enfance pouvait expliquer qui ils étaient devenus. Et je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais néanmoins, ça, à mon avis, ce n'est pas une anecdote et ce n'est pas par hasard que ces 6 dictateurs dont on parle viennent tous de milieux modestes, à l'exception d'Adolf Hitler, mais j'y reviendrai, ce qui explique que dans leur enfance, ils ont connu la faim parfois ou la privation de nourriture. C'est particulièrement le cas chez Saddam Hussein, l'enfant miséreux de Tikrit. Mais on trouve aussi un peu le cas chez Mao, chez Ceausescu. Donc ils viennent de milieux modestes. Et après, ça va être quand même un épisode structurant pour la suite. Et même, et ça je trouve ça très intéressant, chez Adolf Hitler, qui vient plutôt de la bonne bourgeoisie allemande, il connaîtra, lorsqu'il est artiste raté à Vienne, la faim, celle qui vous amène à la soupe populaire, et il le mettra en scène par la suite dans Mein Kampf en disant, vous voyez, moi aussi, comme si c'était un badge de vertu, j'ai connu la faim, peuple allemand, j'ai connu le sort que tu subis en ce moment. Et donc, il crée un lien comme ça, et c'est un peu ce que j'appelle l'invention de la gastro-communication.
Et puis, on est à des époques aussi où beaucoup ont connu la coercition par la privation de nourriture aussi, parce que ça, c'était assez répandu dans l'éducation des enfants.
Oui, effectivement. Par exemple, dans le cas de Mao, on voit bien que son père le nourrissait, mais très petitement, hein, si je puis dire, avec simplement un bol de riz. Son père était un véritable harpagon. Et lui, voilà, c'était une éducation à la trique et une éducation sans vraiment beaucoup de nourriture. Donc, il fallait, quelque part, survivre.
Est-ce que tous les dictateurs ont un appétit d'ogre ?
Non. Vraiment non. Et ça aussi, voilà, je voudrais dire une chose là-dessus. Si on peut les résumer, on a réuni 6 personnalités qui sont très différentes. Mais néanmoins, il y a un trait commun. Ce ne sont pas, si vous me permettez l'expression, de fines gueules. Ce ne sont pas des grands gastronomes très raffinés. Vous avez raison, vous avez souligné le rattachement à la cuisine de l'enfance. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le food comfort. Ils aiment bien retrouver la cuisine de leur enfance. Mais par la suite, vous voyez que certains mangent assez peu. Ils se nourrissent bien, ça c'est clair. Mais ce ne sont pas toujours des mets absolument dispendieux, sauf quand ils invitent et qu'ils ont besoin que ça prouve leur toute-puissance. Mais sinon, prenons l'exemple de Jean Bedel Bokassa, c'est des brochettes de viande grillée avec du manioc. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais s'il invite, oui, là, ça devient de la grande cuisine. Et là, il peut faire aussi de la cuisine escoffienne pour en mettre, si vous me permettez l'expression, plein la vue à leurs invités.
Notamment pour son sacre, on va y revenir. Le repas, il y a le contenu de l'assiette, mais vous insistez aussi beaucoup sur ces moments de repas avec des collaborateurs, avec de la diplomatie qui est invitée. Et vous insistez beaucoup sur cette relation, comment le repas permet aussi d'asseoir sa domination par la peur.
Exactement. Je pense que si ce choix devait m'échoir, j'éviterais absolument la table de Joseph Staline, par exemple. Il est connu pour, et ça c'est documenté, on le trouve dans les mémoires de Nikita Khrouchtchev, qui a été son successeur à la tête de l'Union soviétique, de son ancien ministre des Affaires étrangères, Molotov. Ils savent très bien qu'autour de la table, Joseph Staline va essayer de délier les langues de ses invités. Et comment le faire, si ce n'est les faire boire? Et vous voyez, il leur fait boire, j'ai cette expression dans le livre, in vodka veritas, il leur fait boire des alcools forts, tandis que lui se contente d'un vin de sa province natale, son vin géorgien, pour garder l'ouïe affûtée et pour écouter si, voilà, quelqu'un va dire, va tenir un propos, voilà, il va y avoir un dérapage. Il croit aux vertus désinhibantes de l'alcool. Et effectivement, comme je le dit dans mon livre, les décors changent, les plats changent, mais une chose demeure, c'est que la peur figure toujours au menu.
On déjeune ou on dîne avec Saddam Hussein, la trouille au ventre aussi.
Tout à fait. Et effectivement, je pense qu'il se rapproche. Vous savez que Saddam Hussein était un grand admirateur de Joseph Staline. Et sa façon d'être, effectivement, est la même que Joseph Staline. C'est-à-dire, il écoute, il boit aussi. Il boit beaucoup de whisky, du whisky américain. Et il écoute, et là aussi, le moindre propos un petit peu déplacé peut vous valoir un froncement de sourcils de Saddam Hussein, une remontrance.
Voire bien plus.
Et voilà, et j'allais y venir. Lorsqu'il y a remontrance d'un dictateur comme Joseph Staline ou Saddam Hussein, on ne sait pas où ça peut vous mener. Ça peut passer de la chaleur d'une salle à manger à la froideur d'un cachot et peut-être à l'exécution. Donc il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Tout propos peut être mal interprété. Et c'est ça la magie de la table. On peut se laisser aller, on baisse la garde. Et là, le risque, c'est toujours d'en dire trop. Et devant un dictateur, vaut mieux éviter.
Et pour pas grand-chose, quand une grande bourgeoise est invitée à la table de Saddam Hussein et s'exclame assez enthousiaste à la vue d'une grappe de raisins frais sur la nappe, quelle chance, je n'en ai pas vu depuis si longtemps. Et là, c'est un silence de mort parce que Saddam Hussein dit « Mais vous osez dire qu'il n'y a pas de raisins frais dans le pays ?»
C'est typiquement le petit propos anecdotique qu'on laisse échapper au cours d'un repas, mais attention aux conséquences. Heureusement pour cette dame, il ne lui arrivera rien, mais on sait très bien qu'on est sur le fil du rasoir.
Alors, il faut bien sûr aussi parler du gaspillage, puisque ces dictateurs, ces tyrans sont bien nourris, vous le disiez, même s'ils ne sont pas de fins gourmets. Faites ce que je dis, mais pas ce que je mange. Surtout quand le dictateur fait des provisions, comme en Roumanie, la Roumanie tenue par une main de fer par Ceausescu à l'époque du bloc soviétique.
Cet ascenseur descend jusqu'à la pièce la plus secrète, la chambre et le bunker personnel de Ceausescu. Ici, les preuves de son départ précipité, avec les restes d'un repas abandonné. Dans ce frigidaire, plus de viande qu'un Roumain moyen n'en consomme pendant l'année. Dans ce labyrinthe, équipé d'une climatisation sophistiquée, des centaines d'agents de la Securitate pouvaient tenir longtemps.
Voilà, les souterrains secrets de Ceausescu, une archive INA. Nicolas Ceausescu était diabétique, hein, il a dû suivre un régime. Et tout ce qui est décrit, évidemment, ça fait froid dans le dos par rapport à la carte de rationnement des Roumains de l'époque.
Oui, là, on est quand même par la table. On voit bien un régime ubuesque, un régime où on a mis sur pied un programme d'alimentation socialiste, scientifique, avec le couple Ceausescu, parce qu'il faut aussi parler d'Elena, qui considère que les Roumains mangent trop. Eux, ils sont allés en Corée du Nord, en Chine, ils ont vu que les gens ne mangeaient, les masses populaires ne mangeaient pas tant que ça, et que les Roumains devraient faire un effort. Et c'est pour ça qu'il y a toute une des décisions économiques qui sont prise d'exporter la nourriture, parce que la terreur de Nicolae Ceausescu, c'est effectivement l'endettement du pays et une balance commerciale qui serait trop dans le rouge. Donc les bonnes nourritures, bon, elles sont dans son palais, mais elles sont surtout envoyées à l'étranger pour faire rentrer des devises. Et vous avez là un programme d'alimentation scientifique. Faut imaginer le terme, c'est extraordinaire quand même. Et pour le besoin de cette enquête et de ce livre, je suis allé en Roumanie, je suis allé à Bucarest visiter ils ont conservé un petit appartement de la période communiste, et on voit effectivement les tickets de rationnement avec effectivement on doit avoir tant de grammes.
Il y a 8,5 kg de viande pour l'année,
exactement,
pour un habitant, donc c'est 1 livre de beurre, 2,5 kg de farine pour l'année.
Exactement.
Et 10 œufs pour l'année.
Voilà, c'est très peu, et il y a des anecdotes qui font froid dans le dos, où les gens, lorsqu'ils laissent tomber un œuf par terre, ils le ramassent dans du papier journal pour ne pas le gâcher. Donc on voit quand même que c'est par une décision, c'est pas une décision volontaire comme avec Staline ou comme avec presque Mao et son grand bond en avant qui va amener une famine terrible. C'est pas une famine de cet ordre-là, c'est pas une décision assumée de faire mourir de faim le peuple. Néanmoins, c'est, je dirais, la conséquence d'une ineptie totale. Mais encore une fois, vous avez raison, lui se porte très bien. Elena Ceausescu aime beaucoup le champagne cordon rouge. Il y a un petit côté nouveau riche, même si ce sont des communistes pur jus. Et voilà. Même si, encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire. Il mange le plat local, national, sarmalé, de la feta et tomate. Et puis, encore une fois, il y a toujours cette crainte aussi de la maladie, de ce qu'on mange. Et effectivement, Nicolae Ceausescu, particulièrement à la fin de sa vie, fera très attention. Et tout est pesé au gramme près, son régime alimentaire est très strict de ce point de vue-là.
Revenons à cet attachement à la cuisine de l'enfance, finalement une forme de cuisine nationaliste. Ces dictateurs, est-ce qu'ils oscillent en permanence entre une cuisine bien de chez soi et puis l'attrait pour le luxe international, caviar, etc.
Alors, les recherches que j'ai pu faire m'invitent à penser que finalement, ils ont été très chauvins, très nationalistes dans le choix de leur nourriture, et que finalement, hormis peut-être les alcool fin, dans le cas de Saddam Hussein, c'est assez évident avec le whisky, mais finalement du caviar, Joseph Staline n'avait pas besoin d'aller en chercher à l'étranger, il y en avait en Russie, donc finalement il n'y a pas eu d'importation pour leurs besoins, de ce que j'ai pu en juger. Ceci étant, au gré de mes recherches, j'ai pu voir que d'autres dictateurs, par exemple comme la dynastie des Kim, comme Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung, oui, là, c'était effectivement extravagant et c'était beaucoup de plats étrangers. Son chef japonais a témoigné en ce sens-là. Et puis, il y a le cas intéressant de Jean-Bedel Bokassa qui, là, pour le coup...
Très double face là-dessus.
Très double face. Il y a une dualité. Il a un vrai attachement à la cuisine locale, centrafricaine, le manioc, les brochettes,
beaucoup de viande.
Le gozo, enfin bref, tout ce que l'on peut trouver. Il a son propre riz qu'il a fait pousser en Centrafrique, de la marque Le Paysan. Mais néanmoins, il a, il ne faut pas l'oublier, quand même, aussi la nationalité française. Et il y a cette double obédience à la fois à la Centrafrique, à la cuisine africaine et l'obédience à la cuisine française qu'il maintiendra d'ailleurs jusqu'à son exil ici en France, où il gardera toujours au château d'Ardricourt dans les Yvelines, où il gardera cette double loyauté, plutôt la cuisine du quotidien, c'est de la cuisine africaine, mais lorsqu'il reçoit en son château, un château qui se délabre d'année en année, il fait un effort et il fait en sorte que voilà, on ait la cuisine française traditionnelle avec entrée, plat, dessert, fromage et les grands alcools. Et puis lui, il buvait, il avait quand même une loyauté qui ne s'est jamais démentie Bourgogne et Côte du Nord, Côte du Rhône, pardon, et puis aussi au whisky. C'est ce que sa fille Marie-France Bokassa a pu témoigner en me le disant un petit peu quel était le quotidien dans le château d'Ardricourt.
Oui, Marie-France Bokassa qu'on a reçue d'ailleurs dans cette émission pour son livre et qui raconte beaucoup de choses effectivement par rapport à son père, à la nourriture. Le dîner de sacre, là c'est vraiment, en Centrafrique, reflète vraiment les délires mégalomaniaques d'un homme que vous écrivez emmuré dans la folie des grandeurs, là pour le coup.
Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, c'est un tout. Et puis le banquet est à l'image de cette folie des grandeurs dont vous parlez. Et là aussi, on a de cette grande cuisine française du grand siècle, mais il y a aussi des plats qui sont aussi, malgré tout, là, on retrouve cette dualité avec, j'essaye de me revenir au menu.
Alors en plus, il faut se souvenir qu'il fait 40 degrés, voilà. Que la pièce montée s'écroule complètement, c'est ce que vous décrivez.
Exactement, il fait 40 degrés à Bangui à ce moment-là, donc c'est en décembre 1977, et au menu sur la table, on trouve de l'antilope sauce grand veneur, du suprême de capitaine à l'oseille, ça c'est du plat local, mais on trouve aussi des grands plats français. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand même, toutes ces festivités ont quand même coûté, je crois que c'est l'équivalent d'un quart du PIB centrafricain, qui est quand même, bien sûr, c'est pas un grand PIB, mais néanmoins, et ça, c'est surtout... Habituellement, je suis quand même chez dictateur, parce que ça parle, en fait, ce que mange le dictateur, on a l'impression que c'est une gabegie absolue. En termes de PIB, habituellement, ça reste quand même une part assez infime. Néanmoins, c'est toute la symbolique d'un ogre, d'un dictateur qui peut se nourrir à satiété avec les plus bons produits. Là, il fait venir
deniers de la France derrière, pas l'oublier.
Voilà, avec les deniers de la France, vous avez tout à fait. Mais il fait venir des caisses de champagne, du whisky écossais, effectivement, même des chevaux. Et puis, il y a cette pièce montée qui dégouline, comme vous le disiez, sous la chaleur. Et pendant que... À ce moment-là, le peuple, oui, et c'est ça souvent qui heurte les sensibilités, même dans les régimes démocratiques. Le fait que les puissants puissent s'en mettre plein la panse, si vous me passez l'expression, tandis qu'eux, ont le ventre creux.
Alors, chez Saddam Hussein, vous révélez, vous nous expliquez plutôt dans l'assiette de Saddam Hussein, à la table de Saddam Hussein, et même dans ses pratiques, dans ses relations, dans sa façon d'aller voir les soldats au moment où il y a cette guerre très coûteuse avec l'Iran, un nationalisme pan-arabe qu'il a vraiment jusqu'au trip, là, pour le coup.
Dans quel sens vous le dites
hein? C'est-à-dire qu'il aime la cuisine locale.
Exactement.
Il aime aller même cuisiner pour... Alors, c'est très souvent un peu raté parce qu'il fait trop cuire les aliments, etc. pour aller cuisiner. Il aime aller cuisiner pour ses soldats. Il y a toute une mise en scène
Exactement.
Autour de ça, non?
Et lorsque... et très précisément, le témoignage que j'ai pu recueillir à ce niveau-là, c'est... déjà, il y a sa cuisine de l'enfance et puis il y a le plat national, le poisson que l'on cuit au barbecue, le masgouf qu'il met en avant. Et il aime beaucoup les pistaches, toutes sortes de produits qu'on peut trouver. Il a des origines bédouines, donc là aussi, on peut trouver du lait de chamelle. Donc oui, il y a un vrai attachement à ce qui fait l'âme d'un pays, qui fait l'âme d'une... Enfin, c'est dans la psyché d'un pays, ce qu'il mange. Mais effectivement, il peut, par exemple, alors qu'il y a des liens avant la guerre Iran-Irak, il y a des liens assez forts avec beaucoup d'Iraniens ou de personnes d'origine iranienne qui vivent en Irak. Et là, effectivement, tout d'un coup, ben, les plats iraniens sont un peu... n'ont plus droit de citer à la table de ces palais, et, alors que c'était habituel. Donc oui, il y a une forme de chauvinisme et on peut dire que l'assiette, parfois, peut refléter ces revirements géostratégiques.
Au fur et à mesure d'ailleurs que les caisses du pays se vident à cause de cette guerre si dispendieuse aussi, et que donc les tables irakiennes ne sont plus aussi fournies qu'autrefois et qu'à l'époque de la manne du pétrole. On découvre dans... Alors moi je ne savais pas qu'il y avait eu de l'espionnage par matière fécale de Staline sur Mao quand il vient séjourner en URSS pour mettre en place, consolider des accords avec l'URSS.
Oui, alors mon livre, effectivement, comme vous le disiez en introduction, est parfois assez graphique. Hein. J'ai envie d'aller ausculter, presque descendre dans les entrailles du tyran, parce que, vous savez, il y a beaucoup de nouveaux travaux qui portent sur le second cerveau. Nos intestins seraient notre second cerveau. Et effectivement, cette anecdote, je la trouve extraordinaire. Elle a été exhumée récemment, en fait, par un chercheur qui a travaillé sur les services secrets russes, avec les services secrets russes. Alors, on raconte l'anecdote. 1950, Mao, la révolution chinoise a eu lieu. Il est invité chez le pays frère à Moscou. Staline met sa datcha à disposition et il fait durer les plaisirs, il fait durer le séjour de Mao. Mao en a absolument assez d'ailleurs, parce qu'il dit bah, il aimerait bien être reçu, et il dit, parce qu'il a un langage très fleuri, hein, Mao, il dit je ne suis pas venu ici pour bouffer et chier. Et de fait, ce qui va se passer, c'est que, on l'a appris donc assez récemment, c'est que la tuyauterie des toilettes a été trafiquée pour permettre de recueillir les selles de Mao Tse-tung.
Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'on aurait pu lire dans les selles de Mao Tse-tung ?
Effectivement, c'est d'analyser le taux de sodium qui peut indiquer... Alors, je ne suis pas spécialiste de matière fécale et de ce que peut...
Il y avait des croyances, finalement.
Mais c'est bien connu. Enfin, ça date de Louis XIV, où on analysait les selles du roi, du monarque.
Pour comprendre le caractère aussi.
Pour voir s'il est malade. Pour voir si Mao est malade, pour voir si il est équilibré psychologiquement, et avec l'idée que dans les selles, on peut lire en partie, et c'est pas totalement fait. Le microbiote intestinal peut révéler beaucoup de choses.
On va bien sûr parler de cette cuisine et du soupçon, de la peur de l'empoisonnement que vous avez évoqué au début de l'émission, qui ne quitte jamais les chefs d'État, surtout quand ce sont des dictateurs.
Tous à table, tous à table. J'ai tellement déter que j'arrive à toute patate. à prévenir les gens qui connaissent pas le protocole. Aujourd'hui c'est moi qui régale donc tous à table. Tous à table.
Très bon texte de la rappeuse Laysa en maîtresse de maison. Tous à table, vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Et nous sommes en compagnie de Christian Roudot, journaliste documentaire. Vous avez publié au printemps dernier « À la table des tyrans » chez Flammarion. La table des tyrans, c'est celle d'Hitler, de Staline, de Mao, de Ceausescu, de Bokassa, de Saddam Hussein. Vous l'avez évoqué au début de l'émission, il y a ces fameuses tables où règne la peur quand ça se passe mal et quand la parole est trop libre et que, évidemment, des collaborateurs peuvent se retrouver condamnés à mort. Ça peut aller, bien sûr, jusque-là, à la disparition. Et puis, il y a cette cuisine du soupçon, c'est-à-dire que de nombreux dictateurs ont peur d'être empoisonnés. À l'âge de 24 ans, en Prusse orientale, l'actuelle Pologne, Margot Wölk est embarquée par les SS avec d'autres jeunes femmes pour goûter les plats d'Adolf Hitler. Extrait de son histoire racontée par Arnaud Boutet de France 2 à Berlin.
On était obligés de travailler. Et ce travail, c'était de manger. Il était végétarien. Hitler mangeait beaucoup de salades, des petits pois, des carottes, des asperges. On se disait toutes, est-ce que je serai encore là demain? On savait toutes que les Anglais voulaient l'empoisonner. Tout le monde le savait.
Voilà, goûteuse pour Hitler. Le Führer mangeait une heure après ses goûteuses, c'est-à-dire c'était le temps qui était jugé nécessaire pour découvrir les effets éventuels d'un poison foudroyant.
Oui, c'est une histoire qui fait glacer le sang. Ces pauvres femmes qui étaient réquisitionnées se retrouvaient un petit peu comme de la chair à canon dans un réfectoire. Leur ventre servait de bouclier à celui du Führer. Il y avait cette crainte. Alors, est-ce qu'on doit parler de paranoïa? J'en suis pas sûr, parce que comme le dit la goûteuse dans votre extrait, effectivement, le risque est réel. Et le risque pour tout tyran, je veux dire, le risque pour tout chef d'État d'être empoisonné, il est réel. C'est une façon d'essayer d'éliminer un président ou un souverain. Mais pour un tyran dont le seul moyen est l'élimination physique pour accéder au pouvoir, vous imaginez que oui, l'empoisonnement est une arme comme une autre pour essayer de s'en séparer de ce tyran.
C'est une peur qu'on retrouve chez de nombreux tyrans, mais il y a aussi la peur de l'empoisonnement accidentel. Il me semble que vous racontez que le chef cuisinier de Saddam Hussein avait en permanence peur, contrôler les frigos pour pas qu'il y ait des risques d'empoisonnement par salmonelle et de choses comme ça.
Exactement,
aussi,
oui, hein, oui, tout à fait.
Ça aurait été la fin pour lui.
Oui, son chef raconte effectivement qu'un jour où Saddam Hussein, c'était son ancien chef, lorsque Saddam Hussein s'était senti mal, tout de suite, ce qui avait été fait, la police avait débarqué en cuisine pour vérifier qu'il n'y avait pas des substances interdites. Et effectivement, si jamais il y a un empoisonnement alimentaire classique, on se doute que dans une tyrannie, ça ne va pas être un coup de règle sur les doigts. C'est que potentiellement, c'est au bas mot, on est viré, mais voire plus. C'est ça qui fait, ça aussi j'ai voulu essayer de le mettre en avant, parce que je côtoie souvent les chefs cuisiniers des chefs d'État, hein, plutôt de milieux démocratiques, hein, donc je les rencontre régulièrement. Il faut imaginer quand même le poids qu'il y a sur leurs épaules, hein, parce que lorsqu'on nourrit un chef d'État, c'est pas anodin. Donc effectivement, la crainte qu'il y ait de la salmonelle ou une autre substance qui pourrait empoisonner alimentairement le président, oui, ça, c'est quelque chose qui les stresse beaucoup. Mais comme je dis, dans l'échelle de Richter, si on peut dire du stress, hein, déjà, être chef cuisinier, c'est un métier stressant par définition. Être chef cuisinier d'un chef d'État, c'est très stressant. Mais je n'ose même pas imaginer ce que c'est d'être le chef cuisinier d'un dictateur sanguinaire, en l'occurrence, comme ceux dont on parle.
Le dernier repas aussi, c'est quelque chose qui vous a inspiré dans vos recherches. Le dernier repas d'un dictateur.
Oui, parce que, voyez-vous, j'ai voulu montrer que l'assiette raconte des hommes. Elle raconte des hommes d'État, elle raconte des époques, elle raconte des pays. Et j'ai voulu un petit peu... Et les six personnages dont on parle, ils ont, qu'on le veuille ou non, des existences extraordinaires, romanesques. Et j'ai voulu un peu, du berceau jusqu'à la tombe, les suivre à travers leur régime alimentaire. Et effectivement, il y a une sorte de cuisine de catastrophe avec ces gens-là. Soit Saddam Hussein, il finit ses jours dans une prison américaine avec un petit alors qu'il a connu les fastes du pouvoir avec un petit plateau en plastique.
Apporté par l'armée américaine.
Exactement.
Hein. Et d'ailleurs, le jour où on lui apporte, c'est ce que vous racontez, des queues de homard dans son assiette, il se dit que ça y est, son heure est arrivée.
Alors là, je ne peux qu'interpréter, parce que je ne suis pas dans la tête de Saddam Hussein, et on ne sait pas, mais on peut imaginer qu'à partir du moment où il voit que son ordinaire alimentaire a été nettement amélioré, il peut se dire, alors qu'il sait qu'il est condamné à mort et que son exécution doit avoir lieu, il peut se dire, là, c'est probablement mon dernier repas. Donc, j'ai voulu raconter le dernier repas d'Adolf Hitler, de Saddam Hussein, aussi de celui de Mao Tse-tung, qui est un petit peu tragicomique, parce qu'il est nourri par son... Enfin, on veut le nourrir par son nasal, il n'en veut pas. Il y a aussi...
Il était atteint d'une maladie de Charcot, hein, donc
exactement.
Il ne pouvait plus déglutir, en fait.
Et là, on est dans le tragicomique qui... Enfin, qu'on voit qu'uniquement comme une dictature, comme tout le monde a peur qu'il meure, tout le monde a peur d'être accusé de n'avoir rien fait pour le sauver. Il y a une décision qui est prise par le politburo chinois en disant, on va se mettre nous-mêmes une sonde nasale pour prouver au grand timonier que finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Et là, on est dans la tragicomédie.
Oui, l'absurde. Saddam Hussein écrit, je crois, de sa cellule, j'espère que l'Amérique débarquera avec son armée pour occuper l'Irak. J'aimerais vraiment qu'elle le fasse afin que nous puissions tuer tous les Américains. Nous les ferons rôtir et les manger. Toujours cette obsession.
Cette obsession de la chair, oui, il y a le côté on veut se présenter comme un ogre, on veut se présenter comme quelqu'un de vorace, qui n'a peur de rien. En l'occurrence, ça c'est un de ses discours avant le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe, la deuxième guerre en Irak, et effectivement, c'est pas comme ça que l'histoire se sera produite, se sera déroulée.
Hitler se donne la mort dans son bunker berlinois. C'est quoi son dernier plat ?
Alors, a priori, selon les écrits de sa secrétaire, parce que lui, il mangeait avec des petites mains, alors il n'y avait plus qu'un dernier carré des fidèles dans le Führerbunker, ce serait des spaghettis, mais à la limite, le plat importe peu. Ce qui est intéressant, c'est que la table de la salle à manger sera sa dernière tribune, où il vitupère contre ce peuple allemand, contre les traîtres qui l'ont abandonné, contre ce peuple allemand qui ne s'est pas montré à la hauteur de son génie, et puis il se suicide le 30 avril 1945.
Alors, au-delà du prisme des tyrans pour des présidents normaux, vous avez beaucoup travaillé sur ce lien entre régime politique et régime alimentaire. Vous avez raconté dans un de vos livres précédents que François Hollande s'était fait moins rond pour accéder au sommet. La nourriture reste quelque chose d'essentiel, finalement, dans l'exercice du pouvoir.
Oui, parce que, encore une fois, surtout dans les régimes démocratiques, c'est un sujet très sensible. J'ai beaucoup travaillé à la fois pour la télévision comme pour ces livres d'enquête. Et c'est très difficile d'avoir des informations. On pourrait se dire, c'est assez banal, parler de ce dont on mange, ce qui fait l'ordinaire, le régime d'un président. Mais c'est très sensible parce qu'ils ont toujours peur, ces chefs d'État, d'être vus comme... au sens premier du terme, comme s'ils se nourrissaient sur le dos du peuple qu'ils a élu. Donc, ils font très, très attention. Et on a eu, en France, récemment, un président de l'Assemblée nationale qui a dû démissionner parce qu'on l'avait pris la main dans le pot de homard et de grand cru, si je puis dire. Et vous voyez bien que ça a des implications. Donc, il faut, surtout en période de crise, il faut faire quand même très attention à ce à quoi on mange.
Alors justement, on va partir, si vous le voulez bien, Christian Roudot, pour le Brésil, pour parler des goûts anti-gastronomiques du président Jair Bolsonaro, avec notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Les goûts simples du président brésilien, je mets « goûts simples » entre guillemets, et son attrait pour la junk food, c'est-à-dire la nourriture industrielle de mauvaise qualité, lui ont déjà causé du tort sur la scène internationale.
Oui, alors en 2019, à l'occasion de l'intronisation de l'empereur japonais à Tokyo, le président brésilien a boudé le banquet de mets raffinés pour manger des nouilles instantanées. Il ne s'en est pas excusé, il ne s'en est pas non plus caché, puisqu'il a même posé avec son plat dans sa chambre d'hôtel, fier de préciser sur Twitter qu'il avait ramené des sachets de nouilles du Brésil dans sa valise, parce qu'il n'aime le poisson que quand il est frit, une attitude qui lui a valu le surnom de Presidente Mioge, au président Nouille, qui est devenu sa marque de fabrique, comme Donald Trump et ses burgers Coca. Il a réitéré ses gaffes en Chine, puis en Inde, où il s'est encore affiché avec des plats de riz pâte bolognaise, parce qu'au Brésil, on mélange les deux. Des goûts qui offusquent les gastronomes, mais qui sont surtout un affront pour les gouvernants qui reçoivent le président brésilien.
Et Jair Bolsonaro aime afficher ses goûts simples, c'est aussi évidemment une technique de marketing politique.
Oui, c'est même savamment mis en scène. En 2018, pendant la campagne présidentielle, il avait invité des journalistes à prendre le petit déjeuner chez lui pour un reportage préparé dans les moindres détails et diffusé à la veille du second tour. Il apparaît en maillot de foot et tongs à une table où tout semble disposé à la va-vite. On y trouve le traditionnel combo café au lait et pain français. Donc c'est un pain sans goût qui n'a rien de français. Et là, sur le pain, il étale du lait concentré. Alors, ça en a choqué quelques-uns, mais on trouve maintenant cette recette de petit-déj Bolsonaro dans certaines boulangeries. Et cette bombe calorique a même déjà fait quelques adeptes. En tout cas, par son alimentation, le président veut surtout rappeler qu'il reste proche du peuple. Il s'affiche volontiers à manger les classiques brésiliens, riz haricots, barbecue et beignets frits, et se vante de ne pas faire de chichi à table.
Oui, alors évidemment, en opposition totale à ce que vous venez de dire, en janvier dernier, les frais de bouche du palais présidentiel ont fait quand même sacrément polémique, les dépenses.
Oui, mais là, pas encore vraiment pour la somme en soi, mais plutôt pour l'absurdité des comptes, puisque le palais a dépensé plus de 15 millions de reais, l'équivalent de 2,5 millions d'euros, en lait concentré justement, l'équivalent de 2 à 3 tonnes par jour. Parmi les dépenses les plus importantes, on trouve aussi des chewing-gums, des jus en poudre, de la crème chantilly. Qu'il est clair que Jair Bolsonaro a le palais sucré et n'est pas le président qui donne des festins de caviar et de langoustes. Les chiffres tombés en pleine pandémie ont indigné une partie de la population. Mais comme à son habitude, le président a balayé d'un revers de main et avec quelques insultes au passage les questions des journalistes, s'affichant ensuite dans ses lives Facebook hebdomadaires avec sa boîte de conserve de lait concentré, désormais devenue un symbole.
Voilà, et puis les insultes aux journalistes, je vais quand même donner l'une des phrases. Allez-vous faire foutre chez votre putain de mère, presse de merde, vous pouvez vous la mettre au cul, cette conserve de lait concentré. Ça résume bien le personnage et sa relation à la nourriture. Merci infiniment Sara Cozzolino à Rio, au Brésil. Très bonne journée à vous.
Merci.
Christian Roudeau, il y a un parallèle pour vous avec le burger coca de Donald Trump dans les personnages?
Oui, tout à fait. Le message, hein, comme l'a très bien dit votre correspondante, il est simple. Je mange comme vous, je vous comprends, je suis comme vous. Alors que même si c'est totalement faux, moi je pense que, en fait finalement, c'est leur nature. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens très raffinés. Hein. Je reprends la fameuse phrase Maxime de Brillat-Savarin, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». C'est tout ce qu'on vient d'entendre, tout sauf du raffinement. Et effectivement, les informations que j'ai, lorsque Donald Trump était venu en 2017 ici en France, hein, quand même le berceau de la haute gastronomie, effectivement, c'était du Coca-Cola, du pâté en croûte et puis du burger. C'est ce qu'il voulait, alors qu'il était quand même... Mais c'est parce que c'est leur... nature, c'est qu'il y a un manque de raffinement. Je suis désolé, ce ne sont pas des gastronomes très raffinés parce que ce ne sont pas des personnes très raffinées. Et puis, in fine, ils jouent dessus parce qu'ils savent quand même, ce sont des populistes, ils savent que ça parle au peuple.
Oui. Alors, on peut être cultivé, raffiné, pas s'intéresser à la table. Hein. C'était le cas de Gaulle. Oui. De Gaulle, il aimait bien expédier des repas, il trouvait que c'était une perte de temps, qu'il y avait des choses plus importantes à faire.
Voilà, vous avez raison. Moi, je pense que le cas de Gaulle est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un militaire. Donc, il mange comme un militaire. Si on lui donne une boîte de conserve de petits pois, on lui donne un sandwich au jambon, ça lui va très bien, merci. Mais attention, lorsqu'il reçoit notamment John Fitzgerald Kennedy en 1961 au château de Versailles, là, rien n'est trop beau, rien n'est trop grand, mais ce n'est plus le citoyen de Gaulle qui invite, c'est le président de Gaulle et c'est la grandeur de l'État français et ça doit se retrouver sur l'assiette.
Alors, on a beaucoup écrit sur Jacques Chirac, son goût pour la ripaille. Qu'est-ce qu'on sait de la table d'Emmanuel Macron, sa table personnelle, ses goûts personnels?
Alors, on sait assez peu de choses, encore une fois. C'est toujours compliqué d'avoir des informations.
Il a une ligne filiforme.
Mais voilà. Il est, je pense que c'est un homme de son temps. Alors, ce qui m'a un peu surpris, c'est que je sais qu'il aime quand même plutôt, a priori, selon les informations que j'ai, il aime plutôt les vins, les bons vins. Enfin, il a un côté, il a un palais, mais il mange finalement assez léger. Alors, tout le monde a vu pendant la campagne la fameuse histoire où il s'arrête dans un resto routier et il demande un cordon bleu. Hein, vous savez, ce petit poulet pané qu'on trouve dans toutes les autoroutes, dans tous les restaurants d'autoroute. Donc ça, du coup, vous voyez, d'ailleurs, ça lui a donné un petit côté sympathique. Hein, c'est encore une fois le fameux « je mange comme vous, je suis comme vous ». Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il a l'air d'être, de ce point de vue-là, un homme de son temps. Je dirais presque, si j'osais l'expression qu'on a utilisée pour un autre président, un président normal. Mais je pense qu'il doit faire attention à sa ligne, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de son prédécesseur, François Hollande.
Voilà, on mange avec son époque.
Exactement.
Ça sera une salade de quinoa pour le président Macron.
Voilà, je pense que c'est typiquement avec un peu de roquette et un petit peu de saumon. Ce serait très dans l'air du temps.
Peut-être pas avec la même préoccupation pour le réchauffement climatique. À suivre.
Oui, non, vous avez tout à fait raison de pointer là-dessus. À la cuisine de l'Élysée, on fait de plus en plus attention à toute cette donnée parce que la cuisine officielle, elle n'est pas anodine, elle reste politique et il faut montrer qu'on a une cuisine vertueuse et notamment une cuisine durable qui respecte l'environnement.
Eh bien, merci à vous Christian Roudeau. Il faut absolument vous lire À la table des tyrans. Beaucoup de choses à apprendre. C'est publié aux éditions Flammarion. Merci d'être venu chez 7 milliards de voisins.
Merci à vous.
Dans quelques instants, un tout autre sujet. Ce sera le monde à hauteur d'enfant. Et là, on retrouvera beaucoup, beaucoup de poésie et pas dans l'assiette. Ça sera juste après Dark Horse, Katy Perry. Let's rave. Dark Horse, Katy Perry, Cléopâtre et le faste des banquets. Il faut aller voir le clip. Le luxe entourant les habitudes alimentaires de Cléopâtre peut se retrouver en effet dans ce clip de 2014 où on voit une luxueuse coupe qui lui est présentée par des serviteurs.
Écoutez-moi bien.
Je suis un enfant.
J'ai droit à la parole.
Je vais vous parler aujourd'hui.
On discute entre nous, entre enfants.
On a des choses à vous dire.
On vous donne notre regard sur le monde.
7 milliards d'euros. CRFI.
Yes.
Nous allons maintenant donner davantage dans cette émission la parole à des enfants de 8 à 13 ans à hauteur d'enfant. C'est la nouvelle chronique mensuelle de 7 milliards de voisins par Charlie Dupiau. L'avenir, l'humiliation, la peur, l'honneur. Chaque mois, autour du micro de Charlie Dupiau, des enfants vont discuter autour d'un thème, le rattacher aussi à leur vie quotidienne et partager leur vision d'enfant. La toute première de ces discussions a été enregistrée à Conakry, en Guinée, avec Ténin qui a 6 ans, Mariam 8 ans, Jenaba 9 ans, Meria, 13 ans, c'est important de tous les citer, 4 filles et un garçon, Cabinet âgé de 10 ans aussi, et aujourd'hui, tous les 5 nous parlent d'amour.
Oui, son amoureux s'appelle Soufiane. Arrête.
Oui, en tout cas, son amoureux s'appelle Mariam Camara.
J'ai vu une fille. Elle est jolie, elle est tellement jolie. Je l'ai vue. Il ne connaissait pas qui j'étais amoureuse de lui. Maintenant, lui aussi, il est amoureux de moi quand il m'a vu. Quand j'ai joué avec mes amis, dehors là-bas, après il m'a dit, je suis amoureuse de toi. Moi aussi, je lui ai dit, je suis amoureuse de toi. Il m'a embrassé, moi aussi, je l'ai embrassé.
Franchement, c'est hyper courageux.
On s'amuse. On joue à cache-cache.
L'amour est un sentiment qui amène la paix, la joie.
L'amour, c'est la vie.
L'amour rend les gens vraiment beaux. L'amour rend les gens vraiment beaux. Moi, j'ai vu dans le téléphone de ma mère.
Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de ta mère?
Un dessin animé. C'était la reine et le roi. J'ai regardé dans le téléphone de ma mère, après j'ai compris que l'amour rend les gens vraiment beaux.
Parce qu'ils étaient comment ce roi et cette reine?
Ils étaient beaux.
Il était une fois, dans un royaume très lointain, vivait une reine si belle que les trois mondes n'avaient jamais vu.
Raconte-nous l'histoire.
Le roi et la reine vivaient dans un royaume. Le roi et la reine vivaient heureux. Mais un jour, la reine tomba malade. Elle a dit, occupe-toi de notre fille. La reine mourut. Le roi était mortifié, car il aimait vraiment sa femme. Le roi a dit, la fille, sa propre fille, elle va épouser le fils du premier ministre. C'était la volonté de ta mère, ma chérie. La princesse décida de s'enfuir du palais. Il dit, désolé papa, mais un jour tu comprendras. La fin, la princesse avait vu le vrai grand amour. Elles se marièrent et vécurent très heureux, pour toujours.
Waouh, bravo! Et ça, c'est un dessin animé que tu as vu?
Oui.
Ça s'appelait comment ce dessin animé?
La princesse à la cape forestière.
Ça raconte
l'amour.
C'est quoi l'amour à partir de cette histoire? Vous avez tous écouté, non?
Oui.
Alors?
Ça me inspire beaucoup.
J'ai bien aimé cette histoire. La fille a épousé l'homme qu'il aime et elle n'a pas épousé l'homme que son père lui a imposé. Elle a bien fait des choses.
Mariage forcé. Ton père te dit que tu vas épouser cet homme forcé.
Si on m'obligeait à me marier, je dirais non.
J'aimerais pas me marier à cet âge-là.
Parce qu'elle est toute petite.
Et là, tu as quel âge?
J'ai 13 ans.
Je dirais non. Parce que j'aimerais avoir mon avenir dans mes mains. Lorsqu'on se marie très tôt, tu n'as rien, tu ne travailles pas. Certains hommes te traitent comme les esclaves. Alors moi, je ne veux pas être l'esclave d'un homme.
Demain, 7 milliards de voisins, pourquoi et comment la K-pop part à la conquête du monde? Avec quelques produits phares et beaucoup de travail en amont, il y a bien sûr le groupe BTS, plus gros vendeur de disques au monde, le succès planétaire de la série Squid Game ou encore la consécration du film Parasite au Festival de Cannes, aux Oscars. Comment expliquer finalement cet engouement de la jeune génération pour cette culture si lointaine et qui a vu ses campus universitaires accueillir presque le double d'étudiants en 5 ans? On en parle demain avec nos invités et bien sûr vos appels si vous êtes fasciné par la Corée du Sud.